Et avant d'entamer le message, j'aimerais faire une petite annonce. Dimanche prochain, alors nous sommes censés à continuer Romains, mais le problème c'est que dans 9 jours, je vais partir aux États-Unis et je dois me préparer pour les États-Unis. Je n'aurai tout simplement pas le temps pour me préparer comme j'aimerais dans la suite de Romains pour dimanche prochain. Donc, je vais être là, je vais prêcher, mais sur un autre sujet. Et j'aimerais vous prêcher un message qui est mon message préféré de tous les temps. Celui qui a eu le plus d'effet sur ma vie, parce qu'il n'est même pas de moi. C'est ça qui est une bonne chose, d'accord? C'est le message que j'ai entendu de mon pasteur John MacArthur il y a 30 ans en arrière, qui a bouleversé ma vie. Comment connaître la volonté de Dieu pour ta vie? C'est un message que j'aime prêcher tous les 2 ou 3 ans. Ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas donné ici. Si vous vous posez la question, comment connaître la volonté de Dieu par rapport à une école, ou un emploi, ou un conjoint, toutes ces questions, dimanche prochain, vous aurez la réponse. Vous dites, toi, t'es gonflé. Non, je ne suis pas gonflé, d'accord? Venez dimanche prochain, vraiment, si vous n'avez jamais entendu ce message, je vous encourage de venir, parce que comme je dis, il a bouleversé ma vie, et j'espère qu'il bouleversera la vôtre aussi, d'accord? Donc ça, ce sera dimanche prochain. Voilà, bah écoutez, nous sommes dans Romains chapitre 15 ce matin. Et nous revenons à un sujet très intéressant. C'est un petit peu la suite, mais avec un titre différent. Voici le titre. Comment atteindre l'unité parfaite dans l'Église? Je répète. Comment atteindre l'unité parfaite dans l'Église? Alors j'aimerais lire Romains 15 et les versets 1 à 13, qui est notre texte aujourd'hui. Paul écrit. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Romains chapitre 15 et nous allons lire les versets 1 à 13, un message intitulé « Comment atteindre l'unité parfaite dans l'Église ?» Alors lisons, d'accord ? Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne l'Écriture, nous possédions l'espérance que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Et il dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Comment donc atteindre l'unité parfaite dans l'Église ? Alors peut-être que vous entendez ce titre et vous dites, alors John, déjà pour moi c'est raté. Parce que c'est vrai, beaucoup de chrétiens ont vécu des conflits d'église. Des divisions d'église. Cela est très pénible. Les conflits d'église ne sont jamais faciles et peuvent laisser, il est vrai, des séquelles long terme. Tout le monde en souffre. Mais, alors est-ce que c'est malheureux, est-ce que c'est encourageant? Il faut savoir que les divisions d'église existent depuis toujours. Allez avec moi à Philippiens chapitre 4. J'aimerais vous montrer un petit exemple d'un conflit dans l'église à Philippe, d'accord ? Regardez Philippiens chapitre 4, versets 1 à 3. Il y avait un conflit dans cette église entre deux femmes. Écoutez. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Ce qu'on apprend ici, c'est qu'il y avait dans l'église de Philippe un conflit assez important entre deux femmes. Malheureusement, on sait très peu sur la nature du conflit, parce que ce texte ne le précise pas. Mais apparemment, le problème était grave, parce que Paul doit aborder ce problème dans cette épître. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ces deux femmes? Je vais juste regarder un petit peu ce problème, parce qu'il va nous aider dans notre message tout à l'heure. Les deux femmes étaient chrétiennes, nées de nouveau en Jésus-Christ. Paul les appelle dans le Seigneur. D'être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et il dit qu'ils avaient les deux combattu pour l'Évangile. Donc, ceci révèle que même deux femmes dans le Seigneur qui avaient combattu pour l'Évangile pouvaient à un moment donné avoir un petit conflit entre elles. Ces deux femmes avaient deux noms très beaux, Évodie qui veut dire voyage prospère et Saint-Tiche qui veut dire fortuné. Ce sont des noms qui décrivent à merveille la réalité de leur vie, des deux. Elles ont rencontré le Seigneur, une est devenue prospère avec le Seigneur puisqu'elle le connaissait, et l'autre fortunée, touchée par la grâce de Dieu. Alors on sait qu'elles avaient les deux été dans l'église de Philippe depuis au moins 9 ans parce qu'il dit qu'ils avaient combattu avec lui, donc elles avaient combattu avec lui, Paul dit, et avec Clément et avec d'autres encore pour l'Évangile. Probablement une référence à la fondation de l'église dans Actes 16. Et elles avaient combattu, parce qu'on sait que cette église a été démarrée avec pas mal de problèmes, disons, de gens qui ne voulaient pas que cette église démarre. Donc ces femmes avaient été zélées pour le Seigneur, avaient travaillé en harmonie avec Paul et les autres. Et lorsqu'on dit qu'elles combattaient pour l'Évangile, c'est un mot bien choisi et fort, activement impliquées dans l'œuvre du Seigneur. Mais nous apprenons que pour ces deux femmes, à un moment donné, il y a un désaccord important. Alors on sait qu'il était grave. Pourquoi? Comment est-ce qu'on sait que ce problème était grave? Eh bien parce que Paul est en prison lorsqu'il écrit l'épître et on lui avait informé, on lui dit, écoute, quelqu'un avait été jusqu'à Rome, et ce n'était pas avec EasyJet à l'époque, c'était long, d'accord? On lui avait écrit comme quoi il y avait un problème sérieux dans l'église qui apparemment menaçait la stabilité de l'église et qu'il fallait une intervention apostolique. Mes pages sont collées maintenant. Donc, au moins le fondateur de l'église devait s'exprimer. L'église, apparemment non plus, n'avait pas pu résoudre le problème en eux-mêmes. Même après 9 ans de conversion pour certains dans l'église, ni les anciens ont pu résoudre le problème. Et donc, Paul était assez inquiet pour cette église pour leur écrire. Alors, écoutez bien ce que je vais dire, parce que ça, je trouve intéressant. Apparemment, le problème entre ces deux femmes n'était pas d'ordre théologique. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que Paul n'éclaircit rien de théologique ici. Il dit tout simplement, écoutez, revenez et faites la paix. Donc, ce n'est pas un problème doctrinal. C'était probablement ou bien un problème de personnalité, ou bien un problème lié à ces domaines de liberté chrétienne desquels on discute depuis 2 dimanches déjà. Donc, Paul est très tendre avec elle. Comment est-ce qu'il résout le problème? Verset 1, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Il commence avec beaucoup de tact et d'amour ici. Donc, d'un côté, beaucoup d'amour. Deuxièmement, il est direct. J'exhorte, Évodie, verset 2, et j'exhorte, Saint-Tiche. Alors c'est intéressant, Saint-Tiche. 2 fois il utilise le mot j'exhorte. J'exhorte une, j'exhorte l'autre, et il avance alphabétiquement. Et ça, c'est quand même pas mal, parce qu'il n'est pas en train de prendre position. Il n'est pas en train de dire, je crois qu'une a raison et l'autre pas. Non, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche. Alphabétiquement, les deux ont la même exhortation. Et Troisièmement, il est très clair, verset 2b, d'être d'un même sentiment dans le Seigneur. Revenez, pensez littéralement la même chose. Elles se sont écartées de la pensée du Seigneur, c'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, si vous aviez compris la pensée du Seigneur, si vous étiez demeuré sur la pensée du Seigneur, vous auriez pu être unis. Mais apparemment, on ne sait pas le détail, il y a eu déviation de la pensée du Seigneur. Alors, c'est intéressant, Paul est en plus réaliste au verset 3. Il réalise que parfois il faut de l'aide, verset 3, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie, donc il écrit à un ami, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile, et avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. En plus, bien sûr, il sait très bien qu'elles sont chrétiennes, parce qu'il dit que leur nom est dans le livre de la vie aussi. Mais donc là, il fait appel à quelqu'un pour vraiment aider ces deux femmes à résoudre leurs problèmes. Donc c'est très beau, je trouve, très très beau, de voir qu'il y a un problème dans l'église de Philippe, entre deux femmes, probablement pour un sujet non doctrinal. Et Paul appelle ces deux femmes à revenir dans la même pensée et retravailler de manière unie. Eh bien, c'est exactement ce qui se produisait aussi dans l'église de Rome. À Rome, il y avait aussi un conflit d'église par rapport à deux domaines, mais on l'a déjà vu les deux derniers dimanches, deux domaines de liberté chrétienne. C'est quoi la liberté chrétienne ? Bien, la liberté chrétienne, ce sont des choses qui sont neutres, des choses qui sont ni encouragées ou ni interdites dans la Bible, ni condamnées dans la Bible, mais qui peuvent néanmoins provoquer des problèmes. Alors on a donné des exemples les dernières fois, hein, nous on a pris des sujets, je dirais, qui sont actuels, modernes d'aujourd'hui, certains sujets neutres qui peuvent créer des problèmes dans l'Église. Je fais la liste, on a déjà parlé en détail de toutes ces choses. La musique dans l'Église, quel genre de musique? La batterie dans l'Église, ça c'est au niveau Église. Vêtements, qu'est-ce qu'on devrait porter ou pas porter? Est-ce qu'on a le droit de porter? Qu'est-ce qu'on a le droit de lire comme livre ou film, voir des cinémas, des choses comme ça? Est-ce qu'on a le droit, en tant que chrétien, de fumer, ou de danser, ou de jouer aux cartes, ou regarder Internet, ou faire des jeux vidéo violents? Toutes ces choses où il n'y a pas un verset dans la Bible qui te dit oui ou non, mais des sujets qui peuvent provoquer des conflits dans l'Église. Parce que moi, je ne suis peut-être pas d'accord avec ta liberté, oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ta position, et on n'est pas d'accord. Voilà. Je résume très vite le problème. Alors, à Rome spécifiquement, il y avait le problème, deux problèmes. Titre de révision, le problème de viande sacrifiée aux idoles et le problème de jours de fête religieuses juifs. Il y avait dans l'église de Rome deux types de chrétiens, des juifs convertis à Christ et des non-juifs convertis à Christ. Certains juifs dans l'église ont apporté avec eux certaines prescriptions de l'Ancien Testament, du judaïsme donc, et eux pensaient que ces choses devaient aussi exister dans l'église. Il pensait par exemple que les chrétiens devaient garder scrupuleusement certains jours religieux prescrits dans l'Ancien Testament. Alors les chrétiens non-juifs, eux qui n'avaient pas cette culture juive derrière eux, disaient « Mais non, c'est pas nécessaire de garder ces lois du passé dans l'Ancien Testament. On est libre vis-à-vis de la loi de l'Ancien Testament. » C'est ce qu'ils disaient, donc conflit dans l'Église. Et lorsque certains chrétiens voyaient d'autres chrétiens mangeaient de la viande qui avait été préalablement sacrifiée aux idoles des temples de la ville parce que le coût était moins cher pour acheter la viande au temple qu'au boucher, ben ils étaient scandalisés. Certains disaient, mais attention, cette viande va te contaminer. Nous sortons du paganisme et nous vous mettons en garde. Mais les autres y répondaient, mais non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne comprends rien. Les démons ne s'attachent pas à la viande. Alors la dernière fois, on a regardé ce que la Bible dit sur ces deux sujets. Les jours religieux de l'Ancien Testament ne sont pas prescrits dans le Nouveau Testament, selon Colossiens 2, 16 et 17. Et les viandes sacrifiées aux idoles ne peuvent pas contaminer une personne, selon 1 Corinthiens 8, 4, parce que les démons ou les idoles ne sont pas contaminés en elles-mêmes. Sur un bout de viande donc. Et Paul conclut donc que nous sommes libres concernant ces deux pratiques. Mais voici le problème. Même si cela est vrai théologiquement, tout le monde n'est pas convaincu. Cela dépend de notre maturité chrétienne. De ce fait, Paul dit que les forts, 15.1, regardez, nous qui sommes forts, donc Paul se met dans la classification des gens forts, les gens forts, ceux qui sont libres de ces choses, ceux qui n'ont pas un problème de pratiquer ces choses, doivent honorer les faibles. 14.1 accueille celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas les opinions. On voit très bien que c'est le domaine des opinions ici. Et que si la personne faible ne peut pas comprendre cette liberté, alors c'est le fort qui, par amour, doit s'abstenir de sa liberté. 14.21, il est bien de ne pas manger de viande ni de boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Donc il dit, toi qui es fort, si tu vois que le chrétien faible vraiment lutte avec ces choses, même si elles sont autorisées dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, si lui a de la peine avec, si vraiment c'est un problème de faiblesse, honore ton frère, même si tu dois, toi, décider de ne pas profiter de ta liberté. Alors ça, c'est tout l'introduction. Dans notre texte d'aujourd'hui, un texte de conclusion, Paul revient sur ce qui est important. L'unité. C'est ça qui est important. L'unité. L'unité. Si l'Église va toujours avoir une tendance à se diviser du fait qu'il y a tellement d'opinions sur différents sujets, ça c'est vrai, et surtout sur des sujets de liberté chrétienne, ça c'est vrai, il y aura toujours des différences, elles sont toujours là. Toujours. Ok ? Dans cette réalité, comment maintenir l'unité ? Ah, c'est une bonne question, vous ne trouvez pas ? Et j'ai bien choisi mon terme, l'unité parfaite. Comment faire concrètement et pratiquement ? Eh bien, nos textes d'aujourd'hui nous donnent la réponse. D'accord ? Romains 15, 1 à 13, nous donne cette réponse sur comment maintenir l'unité parfaite dans l'Église. Et nous allons examiner quatre grands points, tout simplement, d'accord ? Avec quelques petits sous-points. Numéro 1, le principe de l'unité parfaite dans l'Église. Deuxièmement, la source de l'unité parfaite dans l'Église. Troisièmement, l'objectif de l'unité parfaite dans l'Église. Et quatrièmement, la méthode sur comment atteindre l'unité parfaite dans l'Église. Alors, on attaque. Numéro 1, le principe de l'unité dans l'Église. Et là, on commence au verset 5. Regardez verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Paul demande aux chrétiens à Rome d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, contexte, par rapport au domaine de liberté chrétienne qui divisait l'Église. Oui, des points de vue différents existent, ayez le même sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire ? 1 Corinthiens 1:10, écoutez. À Corinthe, ils avaient aussi un problème de division, d'accord ? Leur problème est au verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle aussi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, de Céphas. Moi, de Christ. Ils avaient des clans, eux, dans l'Église. Ça, c'était leur problème. Qu'est-ce qu'il dit au verset 10, en Corinthiens 1:10 ? Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis. Hein, c'est pas par hasard que j'ai utilisé ce mot. Parfaitement unis, dans un même esprit et dans un même sentiment. Il dit, voilà, c'est possible d'être unis. Dans Philippiens 1, 27, il dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que soit que je vienne vers vous, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. C'est possible de maintenir une unité. 4.2, Philippiens 4.2, je viens de le lire, hein, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, malgré les différences, c'est ça la clé. Encore 2 Corinthiens 13.11, 2 Corinthiens 13.11, au reste frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et de compassion et d'humilité. Vous savez ce que je suis en train de voir, moi, ici ? C'est que dans l'Église, il y avait des problèmes de désunité, de désunion. Ben oui, parce qu'il constamment, il rappelle à toutes ces Églises, restez unis, restez unis, restez unis. Donc ça, c'est le principe. On va voir comment le faire dans quelques instants. Ça, c'est le principe de l'unité d'Église. Deux, la source de l'unité dans l'Église. Comment vraiment faire? D'où est-ce qu'on va trouver la source pour vraiment pouvoir être unis? Verset 5. Romains 15, 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne à avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train de dire ici, Paul. La seule manière que nous allons pouvoir trouver et maintenir ce genre d'unité dans l'Église est par la puissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Humainement, cela va être très difficile. Pourquoi ? Parce que malgré même notre nouvelle nature que nous avons, nous sommes attachés à l'égoïsme. Alors, peut-être j'aurais posé cette question. Pourquoi y a-t-il des conflits ? Alors, regardez avec moi Jacques 4. C'est la réponse. Pourquoi y a-t-il des conflits? Pourquoi est-ce qu'on est souvent ou parfois ou occasionnellement en conflit les uns avec les autres? En fait, ce verset il est absolument magnifique parce qu'il répond à la question pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des guerres dans le monde? Regardez, d'où vient, donc c'est Jacques 4, 1, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? Donc apparemment, à ceux à qui Jacques écrivait, il y avait des querelles et des luttes. Un peu partout il y en a. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous savez ce qu'il est en train de dire ici? C'est tout simple. Vous savez pourquoi il y a des conflits? Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a des divisions et pourquoi il y a des guerres? L'égoïsme. Je veux et je veux avoir raison. J'ai raison, tu as tort. Guerre. J'ai raison, tu as tort. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Conflit. Conflit dans les mariages, c'est pareil. Conflit entre amis, c'est pareil. Conflit à l'école, c'est pareil. C'est toujours la volonté propre qui gagne. C'est ça qui crée ou qui veut, qui désire. Et donc on voit dans le verset 5 que c'est le Dieu de la persévérance et de la consolation qui peut donner la persévérance et la consolation dans ce domaine. De persévérer dans l'unité, d'être consolé lorsque je sacrifie un droit pour mon frère et pour ma sœur pour ne pas être en conflit. Et donc là on est en train d'apprendre qu'il va falloir qu'on s'abaisse et qu'on honore l'autre pour éviter le conflit. Mais ça on y reviendra dans quelques instants. Donc on a vu le principe de l'unité dans l'Église, de la source de l'unité dans l'Église. Trois, l'objectif de l'unité dans l'Église. Regardez le verset 6. Afin que, alors ce mot dans l'original montre clairement, donne la raison. La raison ou le but, d'accord? Afin que, l'objectif ici, voici le résultat, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est l'objectif de notre unité? Pourquoi est-ce que c'est important d'être unis? Pour qu'on puisse adorer Dieu harmonieusement, tous ensemble. Comme une voix, adorer Dieu ensemble. Alors bien sûr, le contexte, si vous regardez à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, il y a des mots qui ressortent, on y reviendra dans quelques instants. Au verset 8, il parle des circoncis, au verset 9, il parle des païens, au verset 10, des nations et son peuple, au verset 11, des nations, les peuples, les nations. Verset 12. Les nations, verset 12. Le contexte, vous rappelez, dans l'Église de Rome, c'est qu'il y avait des juifs et des païens, des non-juifs qui s'étaient convertis, qui se retrouvent. Et ils amènent leurs préférences avec eux. Et il y a un conflit vis-à-vis de ces préférences. Et donc, c'est pour ça que le mot « tous ensemble » est important ici. Au verset 6, « afin que tous ensemble, juifs et païens, avec toutes nos différences culturelles et autres, tous ensemble d'une seule bouche. Alors c'est intéressant, dans Sophonie 3.9, petit verset très très beau, dans, il faut déjà que je trouve, Sophonie, d'accord, tu es où, Sophonie? Tiens, je viens de perdre Sophonie, où est-ce que tu es, Sophonie? Alors, vous allez voir, là, j'ai ici, il parle d'avoir une épaule contre épaule. Voilà, je viens de trouver Zophonie, excusez-moi, 3.9, il dit, « Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. » Et là, littéralement, c'est l'idée d'épaule contre épaule. Épaule contre épaule, l'adorer. Dans Actes 4, 24, il est dit comme ceci. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit. Et ensuite, ils continuent leur prière. Voyez-vous, le mystère selon Éphésiens 3.6, c'est justement que juifs et païens sont cohéritiers et qu'ils peuvent maintenant glorifier Dieu ensemble d'une seule bouche, épaule contre épaule, parfaitement unis en Christ. Alors ça m'a beaucoup aidé cette semaine et j'espère que vous allez pouvoir saisir ma pensée. Moi j'essaie de le visualiser, notre église, d'accord? On est là, on est tous ici. Et... on a au moins 35 nationalités représentées. On a tous nos cultures, nos bagages, nos arrière-plans, peut-être d'église ou pas d'église, culturel. Et on arrive tout ça et tac, on est là pour un culte pour adorer Dieu. Alors, si on regarde entre nous-mêmes et on commence à se poser des questions, hein, si vous regardez un petit peu à droite et à gauche, les différences qu'on pourrait avoir les uns envers les autres, si vraiment on commençait à faire la liste, il y en aura un paquet, je pense. Un paquet de différences. Et si on creusait ces différences, peut-être on serait en conflit sur certaines choses. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça peut arriver. Mais lorsqu'on vient ensemble, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on rend un culte à Dieu? On ne regarde plus à nous, on regarde à qui? On regarde à Dieu. Tous ensemble, on vient. Alors moi, j'ai fait un dessin carrément sur mes notes. J'ai mis une croix en haut, et ensuite, j'ai mis des petits points avec des flèches. Et toutes les flèches pointent à la croix. D'accord? Ça, c'est nous. On vient ici au culte pour adorer Dieu. Alors maintenant, c'est très très beau parce que dans Apocalypse 5, 8, il est dit ceci. Quand ils eurent pris le livre, c'est une vision du ciel. Quand ils eurent pris le livre, Apocalypse 5, 8, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, devant Christ au ciel, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. » C'est intéressant que lorsqu'on est au ciel, et lorsqu'on sera en train d'adorer Dieu au ciel, est-ce que vous croyez que nos différences vont être évoquées au ciel? Non, nos différences tomberont, toutes nos différences. Alors, c'est intéressant, toute langue, tout peuple, toute tribu, toute nation, mais ces choses... On est tous là en train d'adorer ensemble Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est côte à côte. Et on a encore nos différences. Et ce qui va nous aider dans notre unité, c'est de regarder à Dieu. Il y a quelqu'un qui visitait notre église récemment, qui a dit comme ça, « Ah, on est bien chez vous, il y a la paix, les gens sont heureux et accueillants. » Ils aiment louer le Seigneur. Et ça m'a vraiment ravi, quoi, parce que j'avais l'impression qu'ils ressentaient une vraie paix ici. J'espère que ça dure. C'est vraiment ce que j'espère de tout mon cœur. Qu'on travaille vraiment notre unité. Alors vous dites, ouais, mais John, unité à tout prix? Non, pas à tout prix. Non, parce que Galates 1 nous dit clairement sur quoi il ne faut pas être uni. D'accord? Mais, verset 8, hein, Galates 1, 8, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Non, l'erreur doit être sanctionnée, ça c'est sûr. Vous dites, ouais, mais c'est ça le problème, tout le monde a des opinions différentes. Je sais. C'est là où on doit avoir beaucoup d'humilité. Il y a des erreurs doctrinales qui doivent absolument être sanctionnées. Ça, c'est sûr. Mais là, le contexte est clairement les sujets de préférence. Et sur ces choses-là, nous pouvons être parfaitement unis. Alors, maintenant, comment faire ? Ça, c'est le quatrième point. La méthode pour atteindre l'unité dans l'Église. Y a-t-il des choses pratiques à faire ? Oui. Là, ça va assez vite. Regardez, il y a six choses que que Paul suggère ici pour maintenir l'unité, six clés pour atteindre l'unité parfaite dans l'Église. Numéro 1, supportons, et là je le mets en première personne plurielle, parce que ça nous concerne tous, d'accord ? Numéro 1, supportons les faibles avec patience. Verset 1, regardez. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. On a déjà examiné en détail les responsabilités des chrétiens forts auprès des chrétiens faibles dimanche dernier. Comme j'ai dit, les forts sont ceux qui sont libres concernant les choses neutres, les préférences chrétiennes. Les faibles sont ceux qui sont convaincus qu'il ne faut pas faire telle ou telle chose, même si la Bible donne la liberté à cet égard. Paul est donc clair sur comment il faut faire. Nous qui sommes forts, et Paul se considère fort, nous devons supporter les faiblesses des faibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, le mot supporter veut dire soulever ou porter un fardeau. Dans Marc 14, le mot est utilisé pour quelqu'un qui marchait avec une cruche d'eau, il la portait. Dans Actes 21, 35, quelqu'un portait un homme. Donc, le fort doit porter le faible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cela veut dire pas simplement tolérer ses faiblesses, mais de l'aider à les porter. Je le soutiens. Je le défends de son droit de ne pas être libre. Je ne me moque pas de lui, je le supporte et je l'aide. Je vous donne un exemple. Prenons un exemple, d'accord ? J'essaie de trouver un exemple tout simple. Jouer aux cartes. Disons qu'il y a quelqu'un qui pense que jouer aux cartes, c'est pas bien. Peut-être quelqu'un qui n'a pas du tout cette opinion pourrait dire « Mais t'as vu ce chrétien qui a un problème avec les cartes ?» Mais c'est quoi cette histoire ? Ah, ça pourrait être un petit peu la réaction, mais tu comprends ça toi ? Tu comprends que quelqu'un pourrait avoir un problème avec les cartes ? Comment tu réponds, chrétien fort ? Peut-être tu dis « Ouais, écoute, moi j'ai pas un problème avec les cartes non plus, mais je sais que mon frère... vraiment un problème avec les cartes. Comment tu réagis ? Premièrement, tu ne critiques pas. Deuxièmement, tu pourrais dire quelque chose comme ceci. Tu vas le défendre, tu vas le porter, ce faible. Tu pourrais dire, tu sais que c'est son droit. Il n'est pas encore libre sur ce point. Peut-être qu'il était accro du jeu et que cela lui a coûté son argent et peut-être son mariage. Parce qu'il y a des gens, vous savez, qui sont accros du jeu. Et ça coûte énormément. Peut-être que pour lui, les cartes sont un mal. Et ça a tellement détruit sa vie que juste de voir des cartes, ça l'offense. Et là, une fois qu'on a compris le pourquoi, peut-être notre opinion change. On dit, waouh, c'est vrai. Peut-être que je dois l'aider, ce frère. Peut-être qu'il a besoin de me voir en train de l'encourager dans ce domaine. Discuter avec lui. Peut-être que je dois examiner avec lui, bibliquement, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et peut-être que je dois dire, tu sais, je vois que c'est tellement un problème pour lui, moi je ne vais plus jouer aux cartes parce que ça va l'aider dans la discussion pour qu'il apprenne mieux, pour qu'il apprenne vis-à-vis de cette chose. Vous voyez, c'est intéressant, hein, quand on s'arrête et on réfléchit, on réalise que pour certains, nous devons les aider et porter cette faiblesse avec eux. Ensuite, il dit aussi dans le verset 1, il ne faut pas chercher ce qu'il nous plaît. Peut-être que dans ce cas-là, moi je dois me poser la question, tu sais, j'ai vraiment envie de jouer aux cartes, mais si pour lui c'est un problème, je ne vais pas chercher à faire ce qui me plaît, je m'abstiens vis-à-vis de lui. C'est intéressant, hein? Cette injonction est adressée aux chrétiens forts, pas aux faibles, aux forts. En Corinthiens 9, 19, « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'étais comme juif, afin de gagner les juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin que je ne sois moi-même sous la loi. Je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Paul, il dit, à un moment donné, on s'adapte, alors on ne compromet pas, mais on s'adapte pour aider les gens. Deuxième chose qu'il faut faire pour maintenir l'unité. Édifions notre prochain avec amour. Verset 2, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. C'est important ce qu'il dit ici, Paul. Dans le domaine de la liberté chrétienne, c'est au chrétien fort de plaire au chrétien faible, de s'adapter à lui et de le renoncer à sa liberté pour lui, si c'est ce qu'il faut faire. Alors attention, hein, ces choses doivent être appliquées uniquement pour les choses qui sont considérées des préférences dans les domaines de liberté chrétienne. Et par rapport à quelqu'un qui est réellement faible, on a fait la différence entre un faible et quelqu'un qui est simplement critique. Très différent. Il dit, le but ici, hein, ce qui est bien en vue de l'édification. Moi, je dois me poser la question, est-ce que mon attitude vis-à-vis du chrétien faible est là pour l'édifier, pour l'aider? Trois. Imitons Jésus avec zèle. Verset 3, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. C'est cet exemple, il est merveilleux. Pensez à Jésus. Hein, Matthieu 2, dans Philippiens 2, nous apprenons dans ce très beau texte sur l'incarnation de Christ, je vais lire à partir du verset 5, « Ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est ce qu'il dit ici, Paul, dans Romains 15 et le verset 3, il dit que Jésus a sacrifié ses privilèges pour notre bien, n'est-ce pas? Jésus a sacrifié sa gloire pour nous sauver, de même, je devrais sacrifier mes privilèges pour aider mon frère ou ma sœur qui a besoin d'être aidé. Ça, c'est l'exemple. Est-ce que je suis prêt à sacrifier mon privilège pour aider un frère ou une sœur faible? Ça, c'est la question. Et si on fait tout ça, on sera unis. On sera unis. 4. Soumettons-nous aux Écritures avec humilité. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est la quatrième chose qui nous permettra de nous honorer les uns les autres et d'honorer surtout ceux qui sont peut-être plus faibles que nous dans certains domaines, c'est d'en premier être soumis aux Écritures. Nous devons être soumis à la parole de Dieu de manière volontaire et sans réserve. Hein, c'est ce qu'il dit, et même l'Ancien Testament, regardez ce qu'il dit au verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » La Bible parle beaucoup de ce sujet, j'ai fait toute une série là-dessus. Écoutez ce verset que vous connaissez, 2 Timothée 3,16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » L'écriture, mes amis, est inspirée. Moi, je vous pose cette question, honnêtement. Répondez honnêtement. Pas à moi maintenant, d'accord, mais à vous dans votre cœur. Est-ce que vous êtes convaincu que la Bible est réellement la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez vraiment que chaque mot, chaque lettre, chaque phrase, chaque chapitre, chaque livre, chaque portion de la parole de Dieu est vraiment inspirée de Dieu? Parce que si vous n'êtes pas convaincu de cela, si vous n'êtes pas vraiment convaincu de cela, lorsque la Bible vous ordonne de faire une chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous allez faire quoi? Vous avez trouvé une solution pour ne pas, et justifié dans votre esprit, pour ne pas faire ce que la Bible vous demande. Et donc c'est une question critique, mes amis. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Et moi, quand j'ai commencé mon ministère, je me suis dit, voilà, John, tu dois prendre cette décision. Est-ce que tu crois vraiment que la Bible est inspirée de Dieu? Je me suis dit, je ne peux pas la prêcher si je ne suis pas convaincu de ça. Donc pour moi, elle est 100% inspirée de Dieu. Est-ce que tu es convaincu? Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute. Et je pense que beaucoup de nos conflits, même dans les domaines de préférence, vous savez, si on a une attitude de soumission par rapport à la parole de Dieu, eh bien, on va vouloir dire, ben voilà, comment est-ce que je peux aider mon frère? Est-ce que je dois peut-être sacrifier un bien pour mon frère? Ben, la parole de Dieu me dit que je devrais le faire si je suis un chrétien fort, donc je le fais, si je dois le faire. Vous voyez? Ça vient ici. L'enseignement d'aujourd'hui, est-ce que vraiment on y croit? Est-ce qu'on vraiment on croit qu'il est de Dieu? Sinon, vous allez trouver des manières pour esquiver ce qui n'est pas confortable. Merci au Gédéon de nous avoir rappelé ce petit détail aujourd'hui. La parole est inspirée de Dieu. Cinquième chose qu'il faut faire pour maintenir l'unité. Acceptons nos différences avec enthousiasme. Alors là, c'est les versets que j'ai déjà lus, hein. À partir du verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous accueillit par la gloire de Dieu. Et là, il parle des juifs et des non-juifs, d'accord? Dans l'Église. Il dit, regardez. Alors, je vous donne un petit truc dans l'étude de la Bible. Si vous voyez un paragraphe, vous dites, ouais, je ne sais pas trop de quoi il parle ce paragraphe, parcourez-le et cherchez ou bien des mots clés ou des répétitions. Et quand vous voyez des mots répétés, peut-être le thème est en train de surgir. Regardez, à partir du verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis. Je me dis, ça c'est quand même important comme mot. Il se réfère à quoi? Aux juifs, d'accord? Pour prouver la véracité de Dieu et confirme les promesses faites au Père. Tandis que les païens, en contraste avec circoncis, païens, un mot clé, c'est un non-juif. Donc on sait que dans l'Église, il y avait des juifs et des non-juifs. Glorifie Dieu à cause de sa miséricorde selon ce qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Nations, les nations non-juifs, donc des païens non-juifs, c'est ce qu'on appelle les non-juifs. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Et dites encore, regardez, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Son peuple. Vous voyez le contraste entre juifs et non-juifs. Il continue, verset 11. Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe, lui aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Il est en train d'écrire l'église de Rome ici, quelque part. Une fois mot circoncis, une fois le mot païen. Une fois le mot son peuple, deux fois le mot les peuples et deux fois, trois fois le mot les nations. Paul dresse un contraste entre les juifs et les non-juifs, cite des textes dans l'Ancien Testament pour montrer que dans le plan de Dieu, il y avait toujours l'idée que les juifs, son peuple et les païens loueraient ensemble leur Créateur. Bienvenue à l'Église. C'est possible que vous ayez grandi dans une famille raciste. Il y a beaucoup de gens qui sont racistes dans le monde. Eh bien, dans l'Église, le racisme n'existe pas. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous devenons frères et sœurs, juifs et païens. Nous louons le Seigneur ensemble. Et comment diminuer nos différences? Regardez à Christ. Regardons à Christ. Louons Christ. Et nos différences se réduiront. Donc acceptons nos différences avec enthousiasme. Sur la carte de l'Église, vous avez peut-être vu, on a des cartes, vous pouvez les prendre, distribuer aux gens, mais notre dicton, enfin, je ne sais pas si on dit comme ça, notre dicton ou notre devise, c'est ma carte, je n'ai pas la carte de l'Église du coup sur moi, c'est marrant, hein, mais une Église composée de 30 nationalités. Donc nous, on met ça en avant comme une des marques de notre Église intéressante, parce que nous sommes tous là en train d'adorer le Seigneur ensemble. Et sixièmement, dernièrement, regardons vers l'avenir avec persévérance. Le verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu de l'espérance. Moi, je pense qu'ici, de nouveau, nous sommes appelés à simplement regarder au Seigneur, regarder à l'avenir lorsque nous serons tous ensemble en train d'adorer Dieu, et toutes nos différences, aussi légitimes ou non légitimes qu'elles soient, vont toutes disparaître. Alors, si on applique ces six choses, si on supporte les faibles avec patience, si on édifie notre prochain avec amour, si nous imitons Jésus avec zèle, si nous nous soumettons aux Écritures avec humilité, si nous acceptons nos différences avec joie, et si nous regardons vers l'avenir avec persévérance, quel est le résultat ? Versets 5 et 6. Versets 5 et 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. On sera unis. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je termine avec Genèse 13. Allez avec moi à Genèse chapitre 13. Laissez-moi vous montrer comment on applique tout ça dans le monde concret et réel. Très rapidement, regardez. Genèse 13. C'est l'histoire d'Abraham et Lot. Regarde, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui, son neveu. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, et il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et regardez le verset 7. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Donc, il y a un conflit. Comment résoudre le conflit entre ces bergers ? Verset 8. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Alors comment il résout le problème, Abraham ? Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham, il dit, écoute, on ne va pas se battre. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde ici. On va se séparer. Lot, je te donne le choix. Tu peux aller là-bas ou tu peux aller là-bas. Si tu vas là-bas, je vais là-bas. Si tu vas là-bas, je vais là-bas. Il donne le choix à Lot. Lot, moins mature qu'Abraham, leva les yeux, verset 10, et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Lot, il fait quoi ? Il a pris le meilleur pour lui. Abraham, ok. Abraham, verset 12, habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans la ville de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Mais ce que Lot n'a pas vu dans son côté, je dirais, un peu égoïste, verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et Lot n'avait jamais imaginé que quelque temps plus tard, sa ville serait détruite par le feu et le soufre, par le jugement de Dieu. Et c'est Abraham qui a les meilleurs chants. Un exemple très beau qui montre que l'humilité, c'est une des manières de résoudre le problème. C'est la manière de résoudre le problème. Donc nous devons, mes amis, apprendre en humilité à nous honorer les uns les autres afin que le Seigneur donne unité dans nos relations et dans cette Église. Amen.